A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Nous voici sur la côte est de l'Australie durant l'année 1996, non loin de la ville de Sydney, distante d'une centaine de kilomètres seulement. Pourtant, le dépaysement est assuré, avec la magnifique lagune d'Illawarra ou bien encore les nombreuses plages paradisiaques aux eaux turquoises des alentours. C'est donc sans surprise que la vie se déroule paisiblement dans les petites bourgades du coin, y compris à Albion Park, où vit la famille de Grouchy. Wayne et Jennifer, les parents, élèvent sereinement leurs enfants. Sarah, âgée de 13 ans, Adrian, de 15 ans, et Matthew, de 18 ans, l'aîné. Le mercredi 13 mars 1996, à 8h30, la douce matinée réveille tranquillement Albion Park lorsque le silence environnant est déchiré par des cris puissants. Stephen Bailey, le voisin de la famille de Grouchy, aperçoit dans son jardin Matthew, leur fils aîné, les yeux écarquillés, criant des phrases qu'il a du mal à saisir. Il sort donc hâtivement de son domicile pour comprendre toute cette agitation et la raison pour laquelle le jeune homme est si perturbé. Complètement incontrôlable, Matthew répète sans arrêt qu'il y a un problème avec sa mère, Jennifer, ainsi que sa sœur Sarah. Stephen croit comprendre la situation puisqu'il est au fait que Sarah est épileptique. Cette dernière subit certainement une crise plus violente que d'habitude et Jennifer aurait envoyé Matthew solliciter de l'aide. Bien sûr, le voisin ne perd pas une minute, se précipitant au domicile de la famille de Grouchy. Mais alors qu'il s'attend à une forte agitation au sein de la maison, il n'en est rien. Au contraire, tout est calme, comme s'il n'y avait aucune activité. Surpris, Stephen entre doucement dans le logement, puis distingue la porte entrouverte de la chambre des parents. Il se positionne devant et ne souhaitant pas créer une situation embarrassante, il appelle d'abord Jennifer, mais le silence perdure. L'angoisse se faisant de plus en plus ressentir, Stephen ouvre lentement la porte qui dévoile une pièce très sombre sans le moindre mouvement. En forçant l'observation dans l'obscurité, il décèle une forme sur le lit, laissant penser que quelqu'un est endormi. L'homme s'approche doucement et tire délicatement la couverture qui révèle un massacre sanguinaire. Voici que gît sur le lit le cadavre d'une femme adulte dont l'agression fut si violente que son sang s'étale partout sur les draps et que son crâne laisse apparaître partiellement sa cervelle. Le cœur de Stephen s'accélère, l'adrénaline le pousse à fuir l'endroit, son rythme cardiaque s'emballe et il court jusqu'à son domicile où, essoufflé, il saisit le téléphone afin que la police prenne en charge cette affaire. Les secours arrivent très rapidement sur place. Des ambulanciers, dans le cas où des personnes présentes dans la maison nécessiteraient des soins. Et bien sûr, la police, afin de préserver ce qui, à l'évidence, apparaît être un lieu du crime. Steven, lorsqu'il a retiré la couverture dissimulant le cadavre de cette femme, s'est immédiatement dirigé vers la sortie. Cependant, dans une autre pièce, une autre chambre, se trouvait encore une dépouille, celle d'une adolescente, dans un état tout aussi catastrophique que la première victime. Malheureusement, le conte ne s'arrête pas à ces deux pauvres personnes, puisque les officiers de police qui parcourent l'horreur de la maison tombent nez à nez avec un troisième cadavre situé dans le garage du domicile. Les policiers présents sur place, par déduction, pensent qu'il s'agit des membres de la famille de Grushy, notamment Jennifer et les enfants Sarah ainsi qu'Adrian. Malgré tout, l'état des dépouilles étant si épouvantable, il est impossible de confirmer ou d'infirmer la théorie des agents. Cependant, avec des échantillons de sang récoltés sur les victimes, il est avéré effectivement que ce sont là les trois membres de la famille de Grushy. Matthew de Grushy, qui est venu solliciter l'aide de son voisin Stephen Bailey, est à l'extérieur de la résidence avec les secours. Il est à l'évidence en état de choc, en larmes et tient des propos confus. Il est donc conduit rapidement à l'hôpital pour être pris en charge. Dans le même temps, les enquêteurs poussent les investigations sur le lieu du massacre, débutant par la chambre de Jennifer. La couverture du lit est remontée. Sur la table de chevet, il y a une paire de lunettes qui semble permettre à Jennifer de lire. Pour les enquêteurs, elle était vulnérable au moment où l'agresseur s'est jeté sur elle. Ils estiment, vu sa position et les objets présents dans la pièce, qu'elle s'est assoupie peu de temps avant l'attaque. Une chose à noter est que, malgré la violence des coups portés, les projections de sang ne sont pas comparables à ce qu'elles auraient dû être lors d'une agression de cette envergure. Pour le médecin légiste, l'explication derrière ce phénomène est qu'un objet, comme un coussin, a été intercalé entre l'arme et le crâne de Jennifer. L'auteur de la féroce attaque savait que, de cette manière, il limiterait les éclaboussures de sang et donc les indices. Les techniciens de la police scientifique, cependant, parviennent à détecter de petites éclaboussures au niveau de la tête de lit ainsi que sur les murs. Ils remarquent aussi, sur le sol, que des morceaux de moquette sont manquants, comme s'ils avaient été découpés. Une nouvelle fois, selon eux, il s'agit d'une volonté de l'agresseur de dissimuler des éléments de preuve. La maison étant dans un état relativement neuf, il n'y a aucune raison pour que la moquette de la chambre soit dans un tel état de délabrement. Les enquêteurs s'intéressent désormais à la seconde victime qui se trouve dans l'autre chambre, la jeune Sarah de Grushy, qui vient de perdre la vie à 13 ans seulement. L'attaque de la jeune sœur est peu ou prou similaire à celle qu'a subie sa propre mère. Elle aussi est méconnaissable du fait de la férocité des coups assénés au niveau de son visage. Son lit également est recouvert de sang. À l'instar des événements qui se sont déroulés dans la chambre de sa mère, il semblerait qu'elle aussi ait connu une attaque surprise. Si les enquêteurs envisagent cette théorie, c'est parce qu'à côté du lit de l'adolescente se trouve un Walkman, un petit objet qui permettait, à l'époque, d'écouter des cassettes audio. Sarah aurait été occupée à profiter de sa musique lorsque son assaillant se serait jeté sur elle. Notez que dans ce cas aussi, les éclaboussures de sang sont minimes, contrastant avec la violence des coups. Dans cette chambre se trouve un oreiller qui, a priori, n'a pas sa place parmi les affaires de Sarah. L'objet est entièrement recouvert de sang. Les enquêteurs estiment qu'ils viennent de mettre la main sur ce qui a été utilisé afin de limiter les projections. En revanche, contrairement à l'attaque de Jennifer, et même si dans les deux cas les victimes ont été surprises, la petite sœur aurait tenté de se défendre. C'est ce que le médecin légiste affirme lorsqu'il découvre sur les bras de l'adolescente des marques de défense. Les ecchymoses sont particulières puisque leur forme est rectangulaire. À présent, les officiers de police se concentrent sur la troisième victime, Adrian. Son corps est retrouvé dans le garage. Tout comme dans le cas de sa mère et de sa sœur, il apparaît avoir été surpris lors de son agression. Il semble qu'il travaillait sur un objet en bois lorsqu'il a été frappé par derrière, toujours au niveau du crâne, sans pouvoir se défendre et de manière si brutale que ses dents sont éparpillées autour de lui, parfois à plusieurs mètres. Sur le plafond du garage, la police remarque des traces de sang et ces traces leur font conclure qu'Adrian est le dernier membre de la famille à avoir été tué avec la même arme qui a retiré la vie à sa mère et sa sœur. Pour les enquêteurs, vu la quantité de sang se trouvant au plafond, cela signifie que l'arme utilisée afin d'attaquer le jeune homme était déjà ensanglantée. En portant les coups, le fluide corporel a été répandu de cette façon, créant une éclaboussure très spécifique, amenant à la conclusion des policiers. Un autre point intéressant, ce sont les blessures découvertes sur la dépouille d'Adrian, puisque lui aussi est recouvert d'ecchymoses rectangulaires, sauf une qui est circulaire, rendant perplexes les enquêteurs. En déplaçant la dépouille du jeune homme, une odeur prend le nez des agents de police. Cette odeur est celle de l'essence dont le corps d'Adrian a été aspergé. Ils n'auront pas à chercher bien loin pour découvrir d'où provient le produit inflammable, puisque dans le garage, il y a un bidon rouge permettant de stocker de l'essence. Celui-ci est encore ouvert et contient le liquide. Évidemment, pour les enquêteurs, c'est une tentative de l'agresseur de faire disparaître des preuves, le feu étant l'un des meilleurs moyens dans cette optique. Simplement, pour une raison inconnue, l'individu n'est pas allé au bout des choses. L'équipe scientifique de la police, qui parcourt la maison à la recherche du moindre élément, trouve du sang dans le garage. Mais ce sang est mélangé à de l'eau, laissant suggérer que l'auteur du crime aurait tenté de faire disparaître toute trace d'hémoglobine. Désormais, la grande question est, qui a bien pu commettre un acte si horrible ? Pour résoudre cette énigme, les enquêteurs se basent sur les premiers éléments récoltés. Les trois victimes ayant des blessures similaires, une seule arme a dû être utilisée, signifiant également que l'auteur du massacre aurait certainement agi seul. Par ailleurs, plusieurs objets sont manquants au sein du domicile. Le portefeuille de Jennifer, des jeux vidéo appartenant au garçon, ainsi qu'un magnétoscope. Le mobile du crime serait donc un cambriolage s'étant mal déroulé avec un individu particulièrement malveillant. Il s'agit de l'hypothèse de la police, crédible. Pourtant, les enquêteurs eux-mêmes sont sceptiques vis-à-vis de ce scénario. Ils remettent leur propre théorie en question lorsqu'ils découvrent qu'en réalité, de nombreux objets de grande valeur n'ont pas disparu. Surtout, s'il s'agissait d'un cambriolage, le voleur n'aurait pas fait dans la dentelle, mettant à sac les pièces par lesquelles il serait passé, ce qui n'était pas le cas ici. Il n'y a pas non plus de traces d'effraction. Les objets volés, pour les policiers, font partie d'une mise en scène déployée par l'auteur du massacre dont la tuerie était le véritable objectif. Les enquêteurs tentent de comprendre quel type d'arme pourrait causer les marques rectangulaires sur la peau des victimes, et surtout, pourquoi le corps d'Adrian n'a qu'une seule marque circulaire. En se concertant, ils finissent par conclure que l'arme du crime pourrait être une masse, un cric de voiture ou une clé en croix. Considérant ceci, ils contrôlent la seule voiture présente au domicile de la famille, la Toyota Corolla blanche de la mère, Jennifer. Bien entendu, le premier endroit vérifié est la trappe située dans le coffre, renfermant le matériel permettant le dépannage en cas de crevaison. Lorsque les enquêteurs ouvrent le coffre, une chose évidente leur saute aux yeux. La trappe est ouverte en partie. En observant à l'intérieur, la clé en croix est manquante, mais ils ne tirent pas de conclusion trop hâtive puisqu'elle aurait pu servir à un éventuel dépannage. Pour en avoir le cœur net, ils sortent la roue de secours de son compartiment afin d'analyser son usure. Celle-ci est neuve, n'a jamais été au contact du bitume, et donc il n'y a aucune raison pour qu'une partie du matériel, et notamment la clé en croix, soit manquant. De manière à être totalement certain de la piste qu'ils empruntent, ils remontent jusqu'au vendeur du véhicule, qui confirme que ces objets, au moment de la cession de la voiture, étaient bien présents. Cela indique qu'une personne a cherché un objet spécifiquement à cet endroit pour s'en servir comme une arme. Ils obtiennent exactement le même kit se trouvant dans la voiture de Jennifer pour des tests qui s'avèrent concluants, puisque les objets créent des blessures similaires à celles découvertes sur les dépouilles. La clé en croix est donc potentiellement l'arme qui a permis de générer les traces rectangulaires et circulaires sur la peau des trois personnes décédées dans la maison. C'est une première belle avancée dans la compréhension de ce crime odieux. Et la fouille de la voiture ne se cantonne pas au kit de dépannage. L'entièreté de l'habitacle est passée au peigne fin. Les indices continuent d'affluer, puisqu'une fibre est découverte dans le véhicule, à l'arrière du siège conducteur, sans qu'elle n'appartienne à l'un des éléments de celui-ci. Après contrôle, il s'agit d'une fibre provenant de la moquette de la chambre de Jennifer, là où, souvenez-vous, cette moquette avait été découpée. Cet indice est aussitôt envoyé en laboratoire pour une analyse qui révèle du sang sur ce minuscule morceau de moquette. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas en si bon chemin et lancent une fouille plus large encore, comprenant la propriété ainsi que ses environs. Malgré leur enthousiasme initial, dopé par ces premières découvertes importantes, le soufflet retombe. La recherche de témoignages est chaotique. Personne dans le quartier ou à proximité n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Les médias entrent dans la danse, passant le message selon lequel toute personne disposant de la moindre information devrait se faire connaître auprès des autorités compétentes. L'enquête n'est pas à l'arrêt pour autant, puisque le père de la famille de Grushy, Wayne, doit être interrogé. Wayne de Grushy, au moment des meurtres, est à plus de 100 km de son domicile dans la ville de Sydney. Bien entendu, il est immédiatement rentré à l'annonce des événements horribles qui ont touché sa famille. Tandis que les jours s'écoulent suite au drame, la police concentre son attention sur le père de famille. Leur intérêt pour l'homme est si grandissant qu'il est temps pour Wayne de subir un interrogatoire. Les enquêteurs ayant échangé avec des résidents du quartier ont finalement obtenu des témoignages, selon lesquels certains d'entre eux ont aperçu une voiture d'un modèle s'apparentant au véhicule que conduit habituellement Wayne, une Holden Commodore. Surtout, un témoin anonyme s'est présenté au poste de police en affirmant avoir vu un individu ressemblant fortement à Wayne de Grushy montant dans sa voiture à proximité du lieu du crime très tôt, le matin même du massacre. L'interrogatoire du père de famille se déroule dans une atmosphère tendue. Les policiers tiennent peut-être l'auteur d'une tuerie si horrible que certains de leurs collègues ont décidé de mettre fin à leur carrière au sein de la police. Les enquêteurs tentent de connaître l'emploi du temps de l'homme qui maintient son absence dans la région, s'étant rendu dans la ville de Sydney pour affaires. Il aurait passé la journée entière à jouer au golf avec des amis avant de se rendre chez ses parents dans la soirée. Malgré ces explications, un doute subsiste. Les agents se lancent dans une vérification des propos tenus par Wayne. Ils questionnent alors ses amis ainsi que ses parents. Dans les deux cas, les policiers obtiennent une confirmation des dires de l'homme. Simplement, le doute ne quitte pas les enquêteurs qui suspectent une mise en scène du père qui aurait pu tout prévoir afin d'élaborer un alibi solide. Serait-il parvenu à planifier les meurtres dans des délais si précis qui lui auraient permis de faire l'aller-retour et de se construire une justification ? C'est une théorie à laquelle s'accrochent les enquêteurs, mais qui sera mise à mal lorsque le médecin légiste annoncera l'heure du crime qui aurait eu lieu entre 20h et 1h du matin. Une fourchette incompatible avec les tragédies.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
J'ai réalisé par Wayne de Grushy. Sa voiture, par ailleurs, était immobilisée dans un garage pour des réparations. ce qui dédouane définitivement Wayne, renvoyant l'enquête à la case départ par la même occasion. Quoique, même si Wayne est désormais hors de cause, il reste une dernière piste, celle de Matthew DeGruchy. Les officiers de police sont cependant sceptiques quant à sa culpabilité et se doivent de vérifier. L'aîné de la famille est lui aussi conduit au poste pour subir un interrogatoire. Les mêmes questions qu'à son père lui sont posées, concernant principalement son emploi du temps. Depuis la découverte des cadavres de sa mère, sa sœur et son frère, Matthew a récupéré de la puissante charge émotionnelle qu'il avait affectée mentalement. Désormais, le voici très calme, face aux policiers, indiquant que le soir des meurtres, il se trouvait chez sa petite amie, Alyssa Brindley. La dernière fois qu'il avait vu les membres de sa famille vivants, était la veille avant de partir. C'est en rentrant le lendemain matin qu'il a découvert le massacre, qui lui a valu une hospitalisation. Les enquêteurs ne font pas les choses à moitié, se lançant dans la vérification des dires de Matthew. Lorsqu'il discute avec la famille Brindley, et notamment Alyssa, ces derniers confirment la version de Matthew, selon laquelle son petit ami aurait passé la nuit chez elle. Une bien mauvaise nouvelle pour l'enquête, qui semble s'enliser et se diriger vers un mystère insoluble, et pourtant... Lorsque les enquêteurs discutent avec Alyssa, une révélation de poids leur est faite par la jeune femme. Matthew devait se rendre chez elle aux alentours de 20h. Mais à 22h, n'ayant toujours pas de nouvelles de son petit ami, elle tente de le contacter en appelant chez lui, mais n'obtient aucune réponse. Elle décide finalement d'aller se coucher. Lorsqu'à 23h, Matthew se présente. Curieuse de son large retard, Alyssa demande à Matthew ce qui a causé son contretemps. Le jeune homme explique qu'il n'a pas pu arriver à l'heure convenue puisque, alors qu'il allait quitter le domicile, des appels étranges et surtout menaçants ont été reçus le soir même, indiquant que 3 membres de la famille DeGruchy seraient retrouvés morts. Les policiers sont perplexes face à de telles révélations qui n'ont pas réellement de sens. Dès lors, ils concentrent leur attention sur le fils aîné de la famille qui, lors de son interrogatoire, a omis de mentionner les appels téléphoniques et les menaces, des éléments pourtant inoubliables. Les enquêteurs se mettent donc à creuser, questionnant de façon plus précise Alyssa. Ils demandent notamment si elle a remarqué sur Matthew des égratignures, blessures ou toute autre marque de défense. Mais la jeune femme n'a rien constaté de tel sur le corps de son petit ami. Alors, il se penche sur les fameux appels téléphoniques. Pour vérifier ce point, les enquêteurs réclament la liste des appels passés au domicile de la famille DeGruchy. Après analyse, il s'avère qu'aucun coup de téléphone ne puisse être inexpliqué, contredisant ainsi la version de Matthew. Par conséquent, les policiers sollicitent Matthew pour un second interrogatoire au cours duquel il doit détailler la découverte des cadavres. Le jeune homme affirme avoir quitté tôt dans la matinée sa petite amie pour arriver chez lui sur les coups de 8h30. Mais il n'aurait pas découvert les corps immédiatement, puisqu'il serait allé récupérer son portefeuille oublié dans sa chambre la veille afin de s'acheter des cigarettes. Ce n'est qu'au retour de cette sortie qu'il aurait réalisé que la maison était particulièrement calme. En parcourant les chambres, il serait tombé en premier lieu sur la dépouille de sa mère dans un état choquant, ce qui l'a conduit aussitôt à partir à la recherche d'aide et à trouver Steven, son voisin. À cet instant, la police souhaite récapituler les mouvements de Matthew. De retour après l'achat des cigarettes, le jeune homme serait donc entré dans la maison, aurait traversé le couloir pour atteindre la pièce principale. Jusque-là, Matthew confirme. Lorsqu'il remarque que la maison est anormalement silencieuse, il se dirige vers la chambre de Jennifer, constate que la porte de la pièce est entrouverte et découvre le massacre. Aussitôt, pris de panique, il quitte en courant le domicile à la recherche d'aide. Matthew acquiesce à nouveau. Lorsqu'il arrive chez son voisin, Stephen Bailey, complètement hystérique, il crie à ce dernier « Il y a un problème avec maman et Sarah ». Matthew affirme que ce sont bien ses mots. Lorsque la police scientifique a analysé la maison, elle a conclu que Matthew n'était pas entré dans d'autres pièces que la chambre de sa mère, et le jeune homme confirme une nouvelle fois cette analyse. Simplement, avec cette version, il y a un problème. Comment ? alors qu'il est entré uniquement dans la chambre de sa mère, aurait-il pu savoir que sa sœur, elle aussi, avait été victime de l'attaque? Puisque ce sont les mots prononcés aux voisins. Il y a un problème avec maman et Sarah. Les policiers attendent la justification de Matthew sur ce point. Mais seul un silence sera délivré en guise de réponse. Matthew de Gruchy devient désormais le suspect numéro 1 dans le massacre de sa propre famille. Cependant, le motif reste une énigme. Le voisinage n'a pas rapporté aux enquêteurs de bruit de dispute. Wayne, son père, et Alyssa, sa petite amie, indiquent tous deux que Matthew n'est pas de nature violente et n'avait aucune raison apparente de vouloir s'en prendre à sa famille de manière si violente. L'unique point de désaccord récurrent au sein de la famille était l'utilisation de la voiture de Jennifer par Matthew. Le garçon avait utilisé à de très nombreuses reprises le véhicule de sa mère et désormais, il avait été convenu qu'il ne pourrait plus que faire usage de la voiture de Wayne. Seulement, ce jour, le véhicule du père n'est pas disponible, étant en réparation, ce qui conduit les enquêteurs à émettre l'hypothèse selon laquelle Matthew aurait souhaité conduire la voiture de Jennifer pour se rendre chez Alyssa. Face au refus de sa mère, le jeune homme capricieux aurait déclenché une dispute sur ce désaccord, avant d'entrer dans une colère noire et massacrer tous les membres de sa famille présents dans la maison ce soir. Pourtant, bien que ce soit l'hypothèse de la police, est-ce que le jeune homme serait allé aussi loin pour un désaccord si anodin? Qui plus est, lorsqu'il est rapporté par de nombreuses personnes que Matthew ne possède pas une personnalité violente et que ces petites disputes ont déjà eu lieu à plusieurs reprises. Pourquoi ce soir-là aurait-il été différent des autres fois, entraînant un massacre? Les policiers sont encore hésitants. En tout cas, avant de découvrir des empreintes digitales appartenant à Matthew sur le baril d'essence saisi dans le garage où Adrian a été tué, l'analyse montre qu'un seul individu a manipulé cet objet. Les empreintes très nettes de Matthew indiquent en tout point qu'il est cet individu. Oui, mais voilà, comme rien n'est simple dans cette enquête, il s'avère que le jeune homme manipulait régulièrement ce bidon pour remplir les réservoirs des voitures, et il était quasiment le seul à réaliser cette corvée. Bien que ce ne soit pas l'élément probant ultime, cela conforte les enquêteurs quant à la culpabilité de Matthew dans le massacre familial qui vient d'avoir lieu. Pour établir un lien entre le jeune homme et les meurtres, les officiers de police se penchent sur les preuves médico-légales à leur disposition. Les fibres de moquette trouvées dans le véhicule correspondent à celles de la chambre de Jennifer. La police estime donc que la moquette de cette chambre a été transportée dans la voiture de la mère. Dans l'habitacle, d'infimes traces de sang sont découvertes. Seulement, elles n'appartiennent à aucune des victimes. Et pour cause, puisqu'il s'agit du sang de Matthew qui, par ailleurs, est la dernière personne connue à avoir utilisé ce véhicule. Au sein de la maison, derrière le lit de Jennifer, ainsi que dans le couloir principal, du sang découvert est aussi analysé. Une nouvelle fois, il ne correspond à aucune des victimes, mais bien à Matthew. Pourtant, le jeune homme n'a pas été blessé. Il n'y a pas de plaie sur son corps qui justifierait un saignement. C'est pourquoi les policiers pensent que l'anxiété de l'attaque qu'il a planifiée a engendré un saignement de nez. Conscient que son sang était présent sur le lieu du crime, pouvant par conséquent le trahir, il a pris l'initiative de découper les morceaux de moquette et fait une tentative de nettoyage du sang à certains endroits. Les morceaux de moquette disparus ont d'ailleurs été retrouvés environ 3 mois auparavant par un groupe d'adolescents qui se rendaient à proximité du barrage de Wororona avec leur BMX. Ils ont choisi ce lieu pour y réaliser des acrobaties avec leur vélo lorsqu'ils ont découvert un sac contenant des morceaux de moquette non loin de l'eau. La police n'a appris que tardivement cette découverte, mais souhaite, coûte que coûte, retrouver l'emplacement où les jeunes ont mis la main sur cet indice qui pourrait permettre de réaliser un bond dans l'affaire. Effectivement, le barrage est proche de la maison d'Alyssa. Il est donc tout à fait envisageable que d'autres éléments cruciaux attendent les policiers dans les environs. Finalement, les adolescents qui avaient eu du mal à se remémorer la position exacte du sac parviennent à indiquer le bon lieu, conduisant les enquêteurs sur de nouvelles pistes. Trois sacs sont repêchés au fond du barrage. Ils contiennent tous des objets en provenance de la maison de la famille de Grucci. Notamment le portefeuille de Jennifer, un lecteur vidéo, des jeux vidéo, tout ce qui avait été dérobé dans l'espoir de feindre la police et l'orienter sur la piste du cambriolage. Cependant, la police porte son intérêt non pas sur ces objets, mais sur les morceaux de moquette présents dans les sacs, et surtout, une feuille de papier déchirée comportant des inscriptions. Par chance, le contenu du sac a été protégé tout ce temps durant des aléas de la nature. Et lorsque les 13 morceaux de papier sont assemblés, ils constituent une note manuscrite qui semble être une liste. Cette liste indique les étapes à suivre pour mener à bien une agression et faire en sorte de détourner les éléments du lieu du crime afin de tromper la police et l'orienter vers un cambriolage. Il est possible de lire, entre autres, les mots « maman »,« Sarah » et « Adriane », avec une liste d'accessoires comme un couteau, deux chaussures, ainsi que des actions à réaliser du type « ouvrir la porte » ou « jeter des choses au sol ». Une liste particulièrement incriminante pour Matthew de Grucci, d'autant plus que son écriture est aisément reconnaissable sur ce morceau de papier similaire aux feuilles d'un bloc-notes retrouvé dans sa chambre. Face à l'évidence, le jeune homme ne peut nier qu'il est l'auteur de cette note et reconnaît qu'il a bien rédigé ces lignes mystérieuses, sans pour autant se souvenir dans quel but. Il indique à la police que, selon lui, il s'agissait d'une liste créée en vue de son anniversaire et l'organisation de celui-ci. Cette explication bancale n'empêche aucunement les enquêteurs, 3 mois après les faits, d'inculper Matthew de Grucci pour le meurtre des 3 membres de sa famille, Jennifer, Sarah et Adriane. Au cours du procès, le procureur expose les faits tels qu'ils se sont déroulés selon les enquêteurs, en se basant principalement sur les indices récoltés tout au long de l'enquête. Notez que, malgré des éléments qui pourraient paraître à charge contre Matthew, aucune arme du crime n'a été découverte, compliquant la tâche de l'accusation. Par conséquent, le procureur explique au jury que Matthew a sauvagement massacré les 3 membres de sa famille dans une attaque violente à l'aide d'un objet contondant. Dans la foulée des meurtres, le jeune homme aurait tenté de maquiller son acte sordide en cambriolage avant d'aller chercher son voisin Stephen Bailey en prononçant la fameuse phrase « Quelque chose ne va pas avec maman et Sarah ». L'accusation pour convaincre le jury de la culpabilité de Matthew dans cette affaire appuie sur le fait que le jeune homme avait pu apercevoir uniquement le cadavre de sa mère. Il était donc censé ignorer que sa sœur aussi avait subi une agression. Le sang appartenant à Matthew, retrouvé sur le lieu du crime, les empreintes digitales prélevées sur le bidon d'essence et bien entendu la note manuscrite sont des éléments mis en avant par l'accusation. D'autant plus que, s'agissant de cette dernière preuve, le jeune homme reconnaît être l'auteur de ces lignes rédigées sur ce bout de papier, et que ces objets sont découverts à proximité de la maison d'Alyssa, la petite amie de Matthew. Des preuves intéressantes et à charge contre l'aîné de la famille de Grucci, mais la défense oppose des réponses à ce qui est avancé par le procureur, notamment s'agissant du sang retrouvé sur le lieu du crime, puisqu'il est expliqué que Matthew a déjà saigné au sein de la maison, ce qui rend impossible la démonstration selon laquelle le sang prélevé sur le lieu du crime date de cette fameuse nuit, empêchant de prouver aussi la présence du jeune homme ce soir-là. Et l'absence de blessure, confirmée par les propos d'Alyssa, va en ce sens. La défense présente aussi plusieurs témoignages sur le comportement et la personnalité de Matthew, affirmant que le jeune homme a une attitude tout à fait normale, rien ne laissant penser qu'il pourrait être l'auteur d'un tel acte. D'ailleurs, son attitude le matin de la découverte des cadavres est celle qu'une personne en état de choc aurait eue. Ceci est confirmé par les policiers et les ambulanciers qui sont entrés les premiers en contact avec Matthew. Et surtout, l'argument principal de la défense est l'absence totale de motifs, écartant la théorie illogique des policiers selon laquelle le garçon aurait massacré les membres de sa famille pour une querelle liée à l'utilisation de la voiture de sa mère. Après l'exposé de ces théories, c'est donc au jury que revient la délicate responsabilité de trancher la culpabilité ou non de Matthew de Grucy. Le 14 octobre 1998, 2 ans après les meurtres de Jennifer, Sarah et Adrianne de Grucy, le fils aîné est reconnu coupable et condamné à purger 3 peines d'emprisonnement d'une durée de 28 ans avec une période de sûreté de 21 ans et de façon simultanée, les 3 peines ne s'accumulant pas. Notez qu'au cours de l'énoncé de la sentence, le jeune homme n'a montré aucune émotion. À plusieurs reprises, il tente de faire appel de cette décision, sans que jamais il n'obtienne gain de cause. Après plusieurs années d'incarcération, voici qu'il fait désormais une première demande de libération conditionnelle qui est refusée. Le comportement de Matthew en prison est exemplaire. En août 2019, une seconde demande de libération conditionnelle est formulée. Le côté de la famille de Jennifer, la mère, ne s'oppose pas à cette demande qui est validée. Le jeune homme retrouve la liberté 23 ans après le massacre de sa famille, alors qu'il est âgé de 41 ans. Le jeudi 15 août 2019, à 7h30 du matin, Matthew de Grucy sort de la prison de Long Bay à Sydney face à une nuée de journalistes. Ironiquement, voici qu'il a le même âge que sa mère lorsqu'il l'a tuée. Matthew continue de nier être le meurtrier. Son père, Wayne, maintient également l'innocence de son fils dans cette affaire. Matthew ira d'ailleurs s'installer en Tasmanie avec son père, où il vit en homme libre à présent. Malgré sa condamnation, de nombreuses zones d'ombre persistent, et notamment l'absence d'armes du crime. Mais qui d'autre aurait pu commettre une telle horreur ? Quoi qu'il en soit, voici Matthew de Grucy, libre.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.